Nous sommes le mercredi 25 septembre, bienvenue sur France Inter, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les démocrates américains lancent la première étape d'une procédure de destitution contre Donald Trump. C'est un séisme politique aux États-Unis, mais aussi un coup de poker politique pour les démocrates. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
L'ultime appel à New York d'Emmanuel Macron pour une rencontre États-Unis-Iran. Les dessous d'une niche fiscale supprimé, rétabli en moins de 48 heures. Les océans ravagés, nouvelle preuve accablante du dérèglement climatique selon les experts du GIEC. Et puis les volleyeurs français sur un petit nuage qualifié pour la demi-finale de l'Euro et soutenu comme jamais par un public en feu.
Les invités d'Inter ce matin, Léa, 7h50.
Oui, malgré les cris d'alarme du GIEC, malgré la pression des jeunes, le sommet de l'ONU sur le climat s'est soldé par un échec cette semaine à New York. Pourquoi ? Parole à celui qui a porté la COP21, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Il sort rarement de sa réserve. Laurent Fabius sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale. On va parler budget avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le standard est ouvert.
France Inter. La menace planait depuis le début du mandat de Donald Trump et c'est finalement l'affaire ukrainienne qui provoque l'ouverture de cette procédure rarissime, une mise en accusation, impeachment, disent les Américains, qui peut aller jusqu'à la destitution. Les démocrates soupçonnent Donald Trump d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien l'été dernier pour qu'il enquête sur les activités de son rival Joe Biden et de son fils, qui a travaillé pour un groupe gazier ukrainien. Cette procédure, donc lancée hier par le camp démocrate, n'a quasiment aucune chance d'aboutir et pourrait même être contre-productive à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Grégory Phillips est à Washington pour France Inter.
Elle a passé l'après-midi en réunion au Capitole avec ses collègues représentants démocrates à peser le pour et le contre d'une telle initiative. À 17h, Nancy Pelosi, solennelle, annonce finalement qu'elle déclenche la première étape d'une mise en accusation de Donald Trump. Elle a été convaincue par l'aile gauche de son parti et aussi par les révélations de ces derniers jours, ce coup de téléphone fin juillet entre Trump et son homologue ukrainien Zelensky. Le président américain aurait fait pression sur ce dernier afin qu'il lui communique des informations sur le rival Joe Biden. La façon dont cette présidence agit, déclare Pelosi, montre bien que Trump a trahi le serment fait en prenant ses fonctions. Il a compromis la sécurité du pays et l'intégrité de nos élections. Mais Nancy Pelosi sait aussi que cette arme est à double tranchant, qu'elle peut se retourner contre les démocrates et que Trump, il a déjà commencé à le faire, aura beau jeu de dénoncer une chasse aux sorcières qu'il a qualifiée hier soir de caniveau. La présidente de la Chambre sait aussi que cet épisode va polluer la campagne électorale qui a déjà débuté et surtout qu'en l'état actuel des choses, avec un Sénat dominé par les Républicains, la démarche n'a aucune chance d'aller jusqu'au bout. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Et dans l'histoire, seules deux procédures ont été lancées. La dernière en 1998, Bill Clinton accusé de parjure après sa liaison avec Monica Lewinsky, sans suite. Dans le journal de 8h, nous verrons notamment pourquoi les démocrates ont finalement choisi de lancer cette procédure maintenant. Pendant ce temps, à New York, Emmanuel Macron ne lâche rien, espérant jusqu'au bout aboutir à une rencontre entre les dirigeants américains et iraniens. Ces dernières heures, le président français a multiplié les tête-à-tête avec Donald Trump et Hassan Rouhani en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et hier soir, Emmanuel Macron a donc estimé que les conditions d'une reprise du dialogue ont été créées et qu'il ne tient qu'à eux d'aller de l'avant.
Le risque d'escalade et de surenchère est à son maximum. Compte tenu de ce qui s'est passé le 14 septembre et du niveau de tension, la moindre provocation, la moindre erreur pourrait conduire à des surréactions massives et à une escalade incontrôlée. La reprise des négociations est extrêmement importante maintenant. Le président Rouhani est ici, à l'occasion de cette Assemblée générale des Nations Unies. Vraisemblablement, dans les semaines et les mois qui viennent, il n'aura pas l'occasion de revenir aux États-Unis d'Amérique, et je ne pense pas que le président Trump aura l'occasion d'aller à Téhéran, en Iran. Et donc, c'est une opportunité, si je puis dire, physique, qui est à saisir, parce que je pense que la meilleure manière de commencer une négociation, c'est d'avoir une réunion, une discussion franche, entre les deux principaux protagonistes.
Propos recueillis par Cyril Gradiani, Emmanuel Macron qui a quitté New York dans la nuit pour rentrer à Paris. Et c'est donc depuis les États-Unis que le chef de l'État a piloté le rétro-pédalage du gouvernement sur la niche fiscale pour l'aide à domicile des personnes âgées, qui ne sera finalement pas supprimée. Et c'est Édouard Philippe qui l'a annoncé hier, alors que les critiques commençaient à monter. Alors que s'est-il passé exactement? Qui a parlé trop vite? Élément de réponse avec Karine Bécard.
C'est à Bercy que l'erreur a été commise, au ministère de l'économie. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, avait obtenu de l'Élysée plusieurs arbitrages qui lui étaient favorables. Le problème, c'est qu'il dépassait largement le budget qui lui avait été initialement fixé. Bercy décide donc de chercher de nouvelles mesures d'économie et l'administration identifie cette niche fiscale accordée à toutes les personnes de plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile. Quand le gouvernement et la majorité découvrent et mesurent réellement l'impact qu'aura cette proposition, il est en fait déjà trop tard, l'information est sortie dans la presse et les politiques se retrouvent mis devant le fait accompli. Ce qui prouve une nouvelle fois que la technostructure demeure puissante au sein des ministères et que Gérald Darmanin s'est encore fait déborder, comme avec les APL au début du quinquennat, par sa propre administration du budget.
Les entreprises ne seront pas oubliées dans le projet de loi de finances qui doit être présenté officiellement après-demain. Le quotidien Les Échos annonce ce matin 1 milliard d'euros de baisse d'impôts via notamment une réduction de l'impôt sur les sociétés. Les ménages devraient bénéficier d'une baisse de 9 milliards d'euros l'an prochain. Et les coursiers d'Uber Eats seront-ils mieux payés à l'avenir? Après Deliveroo, l'entreprise de livraison de repas à domicile a décidé de baisser sa commission de 25% à 5%. Mais Yann Gallic, les livreurs ne seront pas forcément gagnants. Explication.
Désormais, Uber Eats ne prendra plus qu'une commission de 5% sur chaque livraison, avec une hausse des tarifs exceptionnels aux heures de pointe. En revanche, les courses en elles-mêmes seront moins bien payées. Dans la capitale, par exemple, elles passeront de 1,40€ à 85 centimes pour chaque kilomètre parcouru. Aziz est membre du collectif des livreurs autonomes de Paris.
On gagne un petit peu plus, mais eux, ils perdent beaucoup moins. Et nous payons un peu moins au kilomètre. Ce qu'on remarque, nous, dans la nouvelle tarification, c'est qu'elle est avantageuse, mais sous certaines conditions. Ça dépend de la distance que le livreur parcourt. Il ne faut surtout pas dépasser 2,8 km sur Paris.
En clair, ce système favorise surtout les petits trajets. Livreuse chez Uber Eats et Deliveroo en Alsace, Leïla parcourt plus de 50 km par jour pour un revenu mensuel d'environ 1 600 euros.
Même si Uber taxera que 5% au lieu de 25%, pour ma part, c'est une perte. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à signer la nouvelle tarification. Mais Uber laisse le choix de la signer ou pas, tandis que Deliveroo nous a imposé la nouvelle tarification. Et ben, je suis en perte sur 5 courses, et ben, je perds presque 6 euros.
Donc à la fin du mois, ça fait beaucoup.
Ah bah ça fait mal.
Les coursiers qui travaillent déjà avec Uber Eats pourront conserver, s'ils le souhaitent, l'ancien système de rémunération. Mais les nouveaux venus n'auront pas le choix. Ils seront payés selon les nouveaux tarifs fixés par la plateforme.
Et les livreurs Deliveroo se rassemblent d'ailleurs aujourd'hui, place de la République à Paris, pour protester contre la baisse de leur rémunération.
Il est 7h08, Agnès, une holding baptisée France Média.
C'est le projet de réforme de l'audiovisuel public présenté par le ministre de la Culture et détaillé dans le Figaro ce matin. France Télévisions, Radio France, France Média, RFI, France 24 et l'INA seront donc regroupés au sein d'une holding qui sera créée début 2021 et dont le président sera nommé par son conseil d'administration au sein duquel l'État sera minoritaire. Un gage d'indépendance pour Franck Riester. Arte France et TV5 Monde, issus de partenariats internationaux, conserveront leur statut particulier. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Les larmes de Greta Thunberg, la plainte de 16 jeunes contre 5 pays, dont la France, pour inaction contre le réchauffement climatique, les rapports qui se succèdent feront-ils un jour bouger les dirigeants? Le bilan du sommet de New York est bien mince et pourtant ce nouveau rapport du GIEC sur les océans et les zones glacées de la planète qui doit être dévoilé ce matin à Monaco est tout aussi alarmant que les précédents. Les experts du groupe intergouvernemental sur le climat de l'ONU ont compilé plus de 7000 études. Les conséquences du réchauffement de la planète et des eaux sont déjà visibles, en particulier dans les lagunes où l'eau est plus chaude avec des conséquences sur la pêche ou l'ostréiculture. En France, par exemple, la production d'huîtres et de moules est affectée sur l'étang de Thaux, où s'est rendue Célia Kiré.
On est sur la lagune de Thaux. C'est 10% de la production de coquillages en France. On est ici à Sète et on va se diriger vers Marseillan, au milieu des tables ostréicoles.
Sur son bateau, Valérie Derolez, ingénieure de recherche à l'Institut Ifremer, mesure la qualité des eaux. Elle voit bien les effets du réchauffement.
La température est plus élevée et on a des maximums de salinité qui sont plus élevés. On a des impacts sur la lagune. Là, en 2018, c'est le deuxième été plus chaud, là, 2018 après 2003. Donc il y a eu des mortalités d'huîtres et de moules. Jusqu'à 60% de mortalité du stock d'huîtres, jusqu'à 30% du stock de moules.
Certains étés, la température de l'étang atteint 29 ou 30 degrés. C'est plus que la Méditerranée. Les huîtres n'ont plus d'oxygène. Dominique Munaron est biogéochimiste à l'Ifremer.
Quand les eaux sont trop chaudes, tout simplement, l'oxygène a du mal à pénétrer dans l'eau. Et il y a aussi une demande biologique en oxygène plus importante parce que les organismes, ils sont, leur développement est accéléré par la température. Une demande plus forte en oxygène et une arrivée moins forte, tous les coquillages qui sont en élevage dans l'eau à ce moment-là meurent.
Et face à cela, certains ostréiculteurs tentent de mettre en place des systèmes de levage pour monter les huîtres hors de l'eau la nuit et leur permettre de respirer. Une autre solution serait de déplacer les parcs à huîtres plus en profondeur pour avoir une eau plus fraîche. En tout cas, les ostréiculteurs doivent s'adapter, c'est une question de survie.
Un reportage de Célia Kiré. Les sénateurs disent oui à un indice de réparabilité pour les appareils électriques et électroniques. La mesure est inscrite dans la loi anti-gaspillage que le Palais du Luxembourg a commencé à examiner hier. Cet indice prendrait la forme d'une note sur 10 établie en fonction de 5 critères comme la disponibilité des pièces détachées ou la démontabilité de l'appareil. La mesure pourrait être imposée aux fabricants à partir du 1er janvier 2021.
Et on termine avec la belle ambiance hier soir à Nantes.
L'équipe de France de volley s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. Une victoire écrasante 3-7-0 face à l'Italie. Une victoire qui leur ouvre les portes de Bercy pour les demi-finales face à la Serbie vendredi soir. Mais ce que retiennent surtout joueurs et entraîneurs, c'est l'enthousiasme du public. 8000 spectateurs venus encourager, chanter, applaudir les volleyeurs français durant plus d'une heure et demie. Guillaume Batin était hier soir dans les tribunes.
Alors qu'ils redoutaient l'échec et des salles vides, les joueurs de l'équipe de France n'avaient encore jamais vécu un match dans une telle ambiance à domicile. Le réceptionneur Julien Linel n'en revient toujours pas.
Oh la vache! Bah là j'en ai les frissons,
c'est incroyable, j'ai rarement vu ça, et c'était comme un orgasme.
Ah c'est un truc de ouf.
L'attaquant Irving Gapet non plus.
Ouais c'est énorme, c'est énorme. Ça nous porte tout le match, ça nous porte dans les moments difficiles comme au deuxième set où tout le monde crie, tout le monde nous encourage, ça nous donne beaucoup de confiance, d'énergie et c'est énorme. J'attendais à des salles vides et c'est le feu, à Montpellier c'était le feu, là c'est le feu, donc... J'espère qu'à Bercy, ça va être pareil.
En plus du match référence de ces joueurs face au vice-champion olympique, le sélectionneur Laurent Tilly n'oubliera pas cette soirée.
C'est une grande satisfaction parce qu'il y a beaucoup d'implications. La fédération, elle s'est beaucoup investie. Il y a du public, c'est notre public. J'espère qu'il y a des photos qui ont été prises parce que c'est la première fois que je vois autant de journalistes français. Donc je les mettrai dans mon livre et dans mon pressbook.
Après les 5000 spectateurs à Montpellier en phase de groupe, 8000 hier soir à Nantes face à l'Italie, la soirée pourrait être encore plus belle pour les demi-finales vendredi à Bercy devant 15 000 personnes. À Nantes, Guillaume Batin, France Inter.
Et l'autre demi-finale opposera la Slovénie à la Pologne.
Merci Agnès Soubiran.